retour sur Fluxport. Voilà, donc nous venons d'écouter l'interview de Nicolas Sornaga et nous sommes rejoints par Idrissa Aguirre et Mélanie Pavy. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Alors, vous êtes les réalisateurs de Cendre, premier long métrage qui est présenté ici dans le cadre du festival. Mais avant de parler de Cendre, parlez-nous juste en quelques mots de votre travail sur Monsieur Morimoto, Mélanie Pavy, parce qu'il s'avère que vous avez collaboré à ce film.
Oui, tout à fait. Bah, j'ai collaboré à Monsieur Morimoto en montage, en fait, à l'époque où Monsieur Morimoto ne devait être que le bonus du DVD de Nicolas Sornaga, enfin du premier film de Nicolas Sornaga, Le Dernier des Immobiles. Donc il s'était lancé dans la fabrication au départ d'un petit film pour le bonus de ce DVD. Et en fait, en cours de montage, cette première phase de montage, le film, ça a commencé à se transformer en long métrage. Et est devenu ce long métrage qu'il y a aujourd'hui, mais avec donc plusieurs étapes de retournage et de remontage successives. Donc voilà, moi j'avais participé à toute la phase jusqu'à la présentation du film à Cannes en 2008. Voilà, et je sais qu'après il a beaucoup retravaillé depuis jusqu'à sa présentation là, à Belfort, et j'ai eu le plaisir de le revoir hier. J'étais très contente de le revoir. Un peu changé.
Oui, c'était la première fois que vous le voyiez donc dans cette mouture-là.
La version finale, oui. Oui, je l'ai vu pour la première fois hier pendant le festival.
D'accord, très bien. Donc venons-en à Cendre. Alors Cendre, c'est un documentaire qui a été réalisé en 2013 par vous deux, donc Idrissa et Mélanie. Alors, Cendre, pour le dire en quelques mots, c'est un film qui est assez magnifique de subtilité et de finesse. Dans ce film, on suit une franco-japonaise, Akiko, qui, après la mort de sa mère, ramène les cendres de celle-ci au Japon, dans sa famille. Mais Cendre, c'est un double retour. Il y a le retour de la morte, voilà, que sa fille ramène, mais sachant que Kyoko, qui est décédée, vivait en France depuis de très longues années. Mais c'est aussi un retour pour Akiko, puisque Akiko vit, elle, au Japon depuis 16 ans et était juste retournée en France pour voir sa mère mourante. Alors, on va aborder au fil de l'interview différents points du film, mais je voulais juste dire que ce qui est intéressant dans ce film, c'est ce qu'il déploie, parce que le film débute avec la parole d'Akiko, qui elle, part aussi à la rencontre d'une famille qu'elle connaît très mal, mais la voix d'Akiko va petit à petit s'effacer pour laisser la place à celle de la mère. C'est un documentaire, certes, mais dont l'écriture et le montage vont intelligemment nous faire découvrir par la lecture des carnets, donc ce sont les journaux intimes de Kyoko, les pensées de cette dernière. Et ce faisant, on va découvrir comment les rapports complexes et distants entre les deux femmes vont se résoudre. La vivante comprenant par la lecture des journaux intimes que l'éloignement qu'elle a vécu assez violemment était souhaité par sa mère qui ne voulait elle qu'une seule chose, rendre sa fille indépendante. Alors, quelle est la genèse de Cendre, Mélanie ?
Ça n'a pas du tout été prémédité, en fait, comme il se fonde sur la mort de quelqu'un, c'est très difficile de préméditer un tel événement. Donc, en fait, c'est venu du... Idrissa connaissait Akiko depuis très longtemps, c'était une amie de jeunesse. Et comme elle était en effet revenue à Paris juste avant la mort de sa mère, il l'a rencontrée, il l'a revue juste après la mort de celle-ci. Et elle nous a raconté donc cette histoire, l'histoire de sa mère et le fait qu'elle allait repartir très vite au Japon pour ramener les cendres. Et donc elle devait partir 3 semaines après cette rencontre. Et donc on a décidé très très vite en fait de faire ce film parce que cette histoire nous a terriblement touchés, émus, a remué des choses très personnelles pour tous les deux, je crois, de manière différente. Mais ça nous a paru vraiment une évidence qu'il fallait la suivre dans ce voyage et en faire un film.
Oui, Idrissa Aguirre, vous disiez ce matin, au moment de la rencontre avec le public qui a suivi le film, au début, on ne savait pas quel film on voulait faire. Et donc, vous êtes partie. Alors, à quel moment avez-vous su quel film vous feriez ?
c'est pas qu'on savait pas quel film on voulait faire, mais c'est-à-dire que un film, ça se réfléchit, ça se mûrit. Et là, entre le moment où on a eu Akiko et qu'on a discuté avec elle de l'éventualité de faire un film et son départ au Japon, il y avait 3 semaines. Donc on avait des fois une espèce d'image mentale comme ça, de films qu'on peut imaginer. En même temps, moi j'étais allé une seule fois au Japon, je connaissais très mal. On ne peut pas savoir ce qui va se passer dans le futur, donc on avait une idée du genre un peu de film qu'on allait faire, mais on est parti quand même à l'aventure en se disant surtout le retour, parce qu'en fait elle devait rentrer chez elle, enfin dans la maison familiale au Japon, et pour qu'il y ait une cérémonie avec la famille, et on se disait que c'était capital de filmer cet instant-là, ce moment-là, même si on devait rentrer après, que faire un film, retourner plus tard, voilà, on savait pas comment on se finirait le film, on savait juste que ce moment-là pour le film était essentiel, et on est parti pour faire ça, pour tourner cette séquence, et il s'est avéré qu'en fait on a tourné la totalité du film pendant ces 5 semaines de tournage.
Et alors, qu'est-ce que la présence de la caméra a produit justement au sein de la famille, parce que enfin c'est vrai que vous êtes là pendant les retrouvailles, pendant les repas, vous êtes là aussi au moment où la famille va partager l'urne, va ouvrir l'urne pour se partager les cendres. Donc comment est-ce que ça a été accepté par la famille?
C'est assez difficile à expliquer. Ça a été accepté, je pense, pour plusieurs raisons. La première, parce que le père d'Akiko était lui-même réalisateur, sa mère était comédienne, le père avait déjà tourné dans cette même maison familiale, donc l'idée d'un film, d'un tournage, ne leur paraissait pas totalement folle. Voilà. Et ensuite,
d'ailleurs, le grand-père, du coup, le patriarche de la famille, avait accepté à l'époque ce tournage dans la maison. Et ça, c'est certainement une chose importante pour la famille, qu'il y ait eu cet accord du patriarche.
Et ensuite, c'était une demande d'Akiko. Ça n'a pas été évident, ils n'ont pas dit oui tout de suite. C'était de longs échanges de mails, tout ça. C'était une demande d'Akiko. Et la famille a accepté, sans doute pour lui faire plaisir, parce qu'ils avaient confiance. Et après, une fois qu'on était sur place, nous on a essayé de se faire le plus petit possible, parce que c'était quand même une situation assez compliquée, c'est-à-dire que c'est une cérémonie funéraire très intime avec des gens qui se connaissent très bien alors que nous on est totalement étrangers. Et ensuite ils étaient tellement pris par les événements du réel que la caméra est devenue totalement accessoire pour eux, et que je ne sais pas s'ils l'ont oublié, en tout cas, ils nous ont laissé peut-être totalement libres de faire le film.
Il y avait aussi un autre élément qui permettait cette invisibilité. On en avait parlé un petit peu tout à l'heure au débat. C'est le fait que nous ne parlions pas du tout japonais. Et on avait fait le choix de ne pas être accompagné par un interprète pendant le tournage. Ce qui d'un côté donc nous posait le problème de ne pas comprendre tout ce qui se passait au niveau de la parole, mais qui nous d'une part nous obligeait à être très sensibles à beaucoup d'autres choses que la parole, un langage plus disons corporel, la chorégraphie de ce qui se passait devant nous, dans les événements qui se produisent, faire attention à ça, c'est aussi comprendre quelque chose de ce qui s'y passe. Mais du coup, par contre, on ne réagissait pas du tout à ce qui était dit. Donc pour eux, il y avait un sentiment de, disons, de liberté à se dire que de toute façon, ils étaient face à des gens qui ne comprenaient rien. Donc certainement que certaines choses ont pu être dites aussi du fait que nous ne comprenions pas.
Si on avait été japonais, par exemple, je pense qu'il y a plein de choses qui n'auraient pas été dites. Parce que c'est une société très complexe, avec plein de codes, avec plein de choses qu'on dit, qu'on ne dit pas. Et je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué finalement pour un japonais d'être à notre place, et que leur parole aurait été beaucoup moins libre.
C'est Sue Baker.
Alors justement, on voit Akiko qui lutte un petit peu parfois avec ses différences culturelles, de par sa culture française et japonaise. Il y a un moment, un monsieur qui lui dit « Non mais de toute façon... tu sais pas très bien parler japonais alors que tu sais très bien parler français et anglais. » Et du coup, moi, je me demandais, avec ces différences-là, et vu qu'il y avait cette barrière du langage qui est quand même évidente, comment vous avez fait pour vous pour vous, comment dire, vous fondre avec cette culture qui est quand même très particulière. Est-ce que vous avez dû faire un travail aussi à ce niveau-là?
Mélanie
Pay. Du fait qu'on ne comprenait pas
Oui, et puis il y a des choses à respecter.
La différence culturelle, oui. Ben, en fait, nous, après cette première phase de tournage qui a été faite de manière très spontanée, très rapide, et on a été catapultés au Japon, on est rentrés en France, on a commencé à travailler, on a écrit des dossiers, on a eu en fait le soutien d'un institut qui s'appelle la Villa Kujoyama, qui dépend de l'Institut français en France, donc le ministère des Affaires étrangères. On a eu la chance d'avoir une résidence artistique de 7 mois au Japon, à Kyoto, ce qui nous a permis d'une part de traduire en partie, la traduction s'est faite aussi par d'autres biais, mais de faire traduire aussi un peu nos rushs plus précisément, mais surtout de s'imprégner beaucoup de la culture japonaise, bien plus qu'on avait pu le faire dans un premier temps pendant le tournage. Et donc de comprendre plus profondément en effet certaines subtilités, certaines choses à côté desquelles on serait certainement complètement passé, parce que c'est la société japonaise est évidemment très complexe, mais comme toute civilisation, mais peut-être du fait qu'elle est cristallisée beaucoup de fantasmes, elle porte avec elle énormément de clichés et auxquels on n'échappait pas, nous, en arrivant là-bas. Hein, et par contre, le fait d'être resté 7 mois là-bas nous a, je pense, permis de désamorcer certains de ces clichés et j'espère, en tout cas les retours qu'on a eu même de la part de Japonais étaient qu'on était dans quelque chose de très en tout cas de juste par rapport à la société japonaise, pas un regard trop occidental et trop décalé par rapport à ça.
Parce qu'il y a toujours une vraie difficulté à faire un film dans une culture qui n'est pas la sienne.
Oui, justement. Ouais.
Parce que là, très vite, on peut aller à des raccourcis très, très facilement. Donc, cette résidence et le fait qu'on soit resté 7 mois sur place, comme l'a dit Mélanie, ça nous a permis de désamorcer pas mal de choses et d'essayer d'être le plus juste possible par rapport à... de comprendre... parce qu'il y a vraiment plein de codes, plein de rites, voilà. De comprendre un peu tout ça, et ce séjour a été la Villa Kujoyama capitale dans le processus de création du film.
Voilà. Après, on avait aussi le fait de passer par Akiko dans toute cette histoire était une porte d'entrée incroyable, parce que c'est vrai que elle, comme le disait son oncle dans le film, ne connaît pas tous les codes, mais malgré tout elle en connaît quand même une partie. Elle a vécu 16 ans là-bas, elle a hérité aussi, même si sa mère lui a pas transmis toute la culture japonaise, elle a hérité de beaucoup de choses, et surtout le fait d'être entre deux nous a permis d'autant plus d'y rentrer, c'est-à-dire qu'au Japon, on lui autorise aussi plus de choses qu'à une japonaise complètement japonaise.
Voilà. Mais ça, c'est une question qui est extrêmement intéressante, parce qu'on voit dans ce film aussi comment Akiko, elle se frotte aussi sans arrêt à des choses qui relèvent de l'interdit pour des Japonais. Il y a un moment où sa grand-mère lui dit... Attendez, je reprends mes notes. Sa grand-mère lui dit... même si elle lui dit, voilà, ça a été difficile pour tout le monde, même si on ne le dit pas. C'est un moment où Akiko n'arrête pas de se confier et de raconter des moments difficiles au moment de la fin de sa vie de sa mère. Et c'est vrai que là, on touche du doigt en permanence cette question de la double culture et de la gêne des Japonais par rapport peut-être à certaines incartades d'Akiko. Est-ce que ça, c'était quelque chose que vous pressentiez ou qui a émergé aussi au fil du film, cette question de la double culture?
La double culture, moi je suis métisse du Sénégal et de la France, et c'est une des raisons pour laquelle au début de ce film, ça m'a profondément touché, parce que moi j'ai vu des choses, moi mon père habite au Sénégal, je vais très souvent au Sénégal, mais voilà. Donc c'est une des choses qui était en effet très, très importante
qui était vraiment au tout début du projet, ouais.
Dans le film. Et par rapport au fait que Akiko était en décalage, nous on savait pas ce qui allait se passer, mais on savait qu'il y avait une certaine forme de décalage, parce que moi Akiko je la connais quand j'avais 17 ans à Paris, et c'était évident qu'il y avait, il y avait un décalage par rapport à la scène où elle se livre à sa famille. C'est quelque chose, au Japon, on ne fait pas ça. On ne dévoile pas en public ses sentiments. C'est quelque chose, une japonaise du Japon n'aurait jamais fait. Voilà.
Même dans sa gestuelle et dans sa façon de parler, en fait, elle est complètement décalée. Dans la scène du repas, au moment où elle commence son monologue, on va dire, elle a une façon de parler, de s'exprimer, les gestes qu'elle fait, tout ça, c'est des choses qui, on voit bien les femmes autour, elles sont extrêmement sobres, extrêmement dans la retenue, et c'est vrai qu'elle a quelque chose un peu de mettre les pieds dans le plat, quoi, dans cette famille.
C'est ce qu'on trouvait intéressant aussi.
Et est-ce que ce film, ça a été aussi l'occasion pour vous de découvrir l'histoire de la mère d'Akiko, qui est quand même assez fascinante, avec la nouvelle vague, les films dans lesquels elle a tourné, et puis la relation qu'elle a avec son mari qui réalise des documentaires. Est-ce que vous vous êtes plongé vraiment dans l'histoire de cette femme aussi ?
Oui, en effet, ouais, on en savait déjà pas mal de choses au début quand Akiko nous a raconté. Mais à la fois, comme on le voit dans le film, il y a très peu de choses. Enfin, il y avait beaucoup de choses qu'elle ne savait pas. Donc nous non plus. Ça a été l'occasion, surtout à travers les carnets, de découvrir vraiment quelqu'un. À travers les films également, il y a toute une partie de sa vie extrêmement riche qu'on a fait le choix de ne pas mettre dans le film, parce que finalement, ça pouvait partir sur plein de pistes. Elle a vécu en Amazonie pendant un an, elle a vécu parmi les Noirs américains au moment de la lutte pour les droits civiques. C'est quelqu'un qui a eu une vie extrêmement riche, donc il y a eu surtout beaucoup dans le montage, la nécessité de faire des choix assez drastiques sur ce qu'on allait raconter de sa vie. On a découvert aussi, par rapport à la nouvelle vague, c'est quelqu'un qui a très bien connu François Truffaut, qui a inspiré un des personnages dans le film Domicile conjugal, le personnage de Kyoko est inspiré par la Kyoko de notre film. Donc, ça a été on a fait une grosse recherche là-dessus. On avait une masse très très importante d'informations et de récits à travers ses carnets à elle. Et voilà, on s'est retrouvé face à quelque chose de très riche, et du coup, voilà, face auquel il fallait vraiment faire de l'épure plutôt que.
En même temps, on a fait des recherches aussi à la Cinémathèque en France, à la Cinémathèque en Suisse, pour essayer de retrouver des films dans lesquels elle avait joué. Et en même temps, on a une matière qui est assez riche, et en même temps, il y a des vrais trous. Voilà. Et on a trouvé ça assez intéressant parce que c'est à l'image de la mémoire familiale. La mémoire familiale, c'est construit un peu de manière fictionnelle sur une espèce de mythe comme ça. Et puis en fait, il y a des vrais moments où il n'y a aucune information.
Mais on le voit justement à la fin où elle cherche un petit peu à combler ce qui manque dans cette histoire-là. Alors on ne sait pas vraiment si elle a trouvé des réponses à ces questions, mais est-ce qu'elle a continué après le film aussi sa quête ?
Ça, je sais pas vraiment, et en fait, pour être honnête avec vous, si je le savais, je sais pas si je vous le dirais. D'accord. Parce que
préserver le mystère autour.
Non, c'est pas pour préserver le mystère. C'est parce que c'est quand même un film où on est très très proche d'Akiko. C'est assez dur pour elle, et on choisit de montrer un fragment de la vie d'Akiko d'une manière très intime. On s'est attaché à s'intéresser à l'intime, mais jamais au privé. Et vous voyez, le film il finit sur un plan cut sur elle, sur le visage. Ça veut dire aussi après c'est fini. Pas la vie est finie, la vie est continue, mais après la caméra elle est plus là, nous on n'est plus là. Et après le reste de sa vie lui appartient. Et voilà.
L'autre chose aussi par rapport à ça, pardon, c'est que. Et c'est ce que nous on a un peu constaté dans cette recherche pendant le film et qu'on a essayé de montrer aussi à travers le film, c'est que. Une fois qu'une personne est morte, il y a des questions en fait qui sont juste des questions quelque part un peu pour la garder un peu en vie, mais qui seront jamais vraiment satisfaites. On se retrouve face à quelque chose qui est terminé, la véritable absence, l'irréversibilité de pouvoir à nouveau parler. Enfin, il y a quelque chose de complètement terminé. Et du coup, par exemple, dans la scène à la fin, dans le bar, où elle pose toutes ces questions qui restent sans réponse, nous, on ne pouvait pas savoir si elles allaient rester sans réponse ou pas. Mais en tout cas, on se doutait d'une chose, c'est que, quelle que soit la réponse qu'aurait pu donner la personne à ce moment-là, ça n'aurait pas été suffisant, puisque ce qu'elle recherche à ce moment-là, c'est encore un peu de vie de sa mère, quelque part. Et donc le film est construit aussi sur cette question-là de la mort et du fait que la mort arrête la possibilité de réponse.
Et c'est pour ça que dans la scène qu'évoque Mélanie, on a fait le choix de ne pas montrer de contre-champ.
C'est vraiment un parti pris, parce qu'on avait envie de le voir, ce visage-là, et non, on ne le voit pas.
Mais comme Akiko avait envie d'avoir des réponses qu'elle n'a pas, et parce qu'à un moment, c'est devant l'irréversible, elle est devant un mur, et voilà, ça s'arrête là. La mère est morte. Et en fait, le contre-champ n'était pas possible, parce que le contre-champ, c'est la vie, c'est le dialogue, c'est la discussion. Et là, c'est la solitude, c'est la mort, et c'est le silence. Voilà.
Et en même temps, il y a quand même dans ce film un contre-champ qui est extrêmement vaste, parce que, enfin, vraiment, je le redis, moi j'ai trouvé ce film assez génial et extrêmement juste par sa façon de filmer la mort, parce que la mort, c'est à la fois quelque chose d'une gravité et d'une profondeur sans fond, et en même temps ça passe par du banal, par des choses hyper vulgaires, enfin, où à un moment on brûle le cachet de cire pour ouvrir l'urne, on s'interroge, on veut réinjecter un peu de rituel là-dedans, donc il y a un membre de la famille qui propose que chaque membre de la famille prenne chacun son tour une cuillerée de cendre pour remplir l'urne, comme s'il fallait ramener comme ça une sorte de symbolisme et de rituel là-dedans. Et en même temps, tout en filmant la mort, ça aborde d'autres questions, et notamment cette question de la place de la femme dans la société japonaise et aussi de la place de l'individu dans la société japonaise. Et cette question-là de Kyoko, pardon, qui décide de quitter, mais apparemment un peu contre l'avis de sa famille, qui décide de quitter son pays pour suivre ce français, pour aller s'installer en France, pour voyager, pour avoir une vie qui ne correspond pas forcément à celle d'une société japonaise, ça renvoie aussi quelque part au film de Nicolas Sornaga et à Monsieur Morimoto, parce que Monsieur Morimoto, c'est quelqu'un, Nicolas Sornaga le disait il y a quelques minutes, qui, lorsqu'il est à la retraite, il décide de laisser femmes et enfants et de venir en France. Comme si, quelque part, le seul moyen d'échapper à une société qui était trop fermée, c'était de partir, de quitter le pays. Voilà, en fait, ça, c'est plus un ressenti. J'ai du mal à...
Non, mais tout à fait. Je pense qu'en effet, le rapport, en tout cas, c'est Kyoko, à ce niveau-là, elle est très, à la fois très originale, et à la fois elle est aussi une femme de sa génération, puisque à cette période-là, dans beaucoup de pays et de cultures, il y a des femmes qui se sont, disons, un peu plus émancipées. C'est d'autant plus fort pour elle qu'en effet, la société japonaise est extrêmement traditionnaliste et peut-être dure de ce point de vue-là. Mais oui, après, bon, peut-être que le film aussi, par la réponse qu'elle en donne dans l'utilisation de son image dans La Nouvelle Vague, qui était à l'époque le summum de la modernité, montre que malgré la modernité, les clichés et les limitations de la place de la femme reste vivace, et qu'elle s'est retrouvée dans un autre folklorisme à ce moment-là.
Oui, c'est ça, oui, parce que Kyoko dit dans ses carnets, dans les journaux intimes, qu'elle reste dans les films de la Nouvelle Vague la japonaise folklorique et soumise.
Oui, parce que c'est aussi un film sur c'est un film sur la mort, sur la relation entre un enfant et sa mère, mais c'est aussi un film sur la liberté et les dernières paroles du film, ce qu'elle transmet à sa fille, c'est ça, je pense. C'est la nécessité de la rupture pour se rapprocher d'une forme de liberté.
Et peut-être aussi le fait que de partir du pays ne suffit pas, puisque la première fois où elle part, elle se retrouve réenfermée dans quelque chose d'autre. Donc, Il s'agit d'une construction peut-être permanente, quoi, de ne pas s'arrêter à un premier départ, mais de continuer toujours à chercher la liberté quand il se gagne en permanence. Quoi. Elle n'est jamais vraiment gagnée. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi.
Alors, cette idée de construction et de recherche de liberté, on la retrouve différemment, mais on la retrouve quand même un petit peu dans un autre documentaire de la compétition qui s'appelle Chantier A, qu'on a vu. Et en parcourant la programmation, je vois qu'il y a un autre documentaire, la Jungla Intérieure, je ne sais pas si je prononce bien. Et on a aussi cette idée de voyage, de départ pour trouver quelque chose. Moi, je me demande s'il n'y a pas un petit peu, je vais vulgariser en disant ça, une tendance du documentaire à aller vers quelque chose de l'ordre du retour à des racines et en même temps aussi quelque chose de l'ordre de l'introspection. Je trouve ça assez. Ça m'interpelle qu'il y ait ces trois documentaires-là qui évoquent un petit peu.
Je ne pense pas que ce soit une tendance du documentaire. Je pense que c'est quelque chose de. C'est un questionnement profond de l'être humain.
Est-ce que c'est cette époque qui fait ça aussi parce
Je pense que c'est de tout temps. Enfin, j'ai l'impression que.
Oui, mais c'est une
question profonde, ouais. En fait, d'où.
Ça faudrait peut-être demander aux programmateurs si c'est des choix qu'ils ont fait eux ou si en effet il y avait beaucoup de propositions comme ça précisément cette année. Mais moi, il me semble aussi que c'est des questionnements qui sont assez universels et atemporels.
Mais c'est vrai que Tarek Sami, réalisateur de Chantier, disait qu'on était, en tout cas que lui se sentait dans une génération de gens un peu paumés et que du coup on cherchait à explorer beaucoup plus ces questions-là qu'avant. Alors, est-ce que c'est
mais peut-être on est quand même en effet dans une en tout cas une génération où on est le produit de beaucoup de migrations, hein, ce qui avait été peut-être moins le cas dans le temps avant, enfin en si grand nombre. C'est des sociétés qui ont énormément migré, bougé d'un continent à l'autre. Donc oui, c'est certainement des questionnements qui se posent de manière plus prégnante aujourd'hui. Après. Je sais pas, peut-être que quand on circulait même de manière plus petite d'une région à une autre, le sentiment de nécessité de retour, de racine était fort aussi. C'est difficile à dire.
Oui, vous parlez de Chantier A, Cécile Becker, et c'est vrai que les réalisateurs Tarek Sami et Lucie Desch, quand on les recevait hier, ils nous disaient que partir avec la caméra et se dire qu'ils faisaient un documentaire, ça devenait presque un prétexte aussi pour pouvoir retourner en Algérie et pour pouvoir voir comment les choses avaient évolué là-bas et se confronter à cette réalité-là. Alors là, pour Sandre, c'est différent. C'est quelque chose que vous disiez ce matin à la rencontre, que peut-être pour Akiko, ça l'avait aidé justement à prendre de la distance et à vivre aussi cette confrontation à sa famille, face à sa famille.
Oui, en tout cas, c'est ce qu'elle nous a dit, hein, que le film l'avait aidé à partir, à faire son deuil, à faire ce voyage, à accomplir ses actions. Elle disait que certainement toute seule, elle n'aurait pas forcément eu le courage de faire tout ça, d'aller jusqu'au bout de cette démarche. Et nous, on l'a senti aussi, hein, en cours de voyage. Ouais, tu veux en parler ? Ce dont on avait parlé, on avait fait une rencontre là il y a deux jours avec les gens de Image en Bibliothèque. Et nous, dans la façon de faire le film, on s'est rendu compte que, au moment de faire le film, on s'est rendu compte que. Lorsqu'on est dans une seule et même culture, dans une seule et même famille, les rituels de deuil, en fait, c'est quelque chose qui est très encadré par la famille, par la société. On a des réflexes, on nous propose des choses auxquelles on est habitué et on va les faire même si on est très seul, malgré tout, selon un ordre relativement organisé. Pour Akiko, le fait qu'elle soit entre deux cultures, entre deux pays, deux familles, ça a fait qu'elle a dû créer certains rituels qui étaient les siens propres. Et nous, on a suivi ça avec beaucoup d'intérêt parce qu'on se rendait compte que finalement, elle organisait ses propres rituels de deuil. Par exemple, c'était l'exemple dont on a parlé l'autre jour, c'est que pendant tout le tournage, Akiko est quasiment tout le temps habillée avec des couleurs sombres. Et à la toute fin du film, en fait, le jour où on a tourné la scène finale, on a vu Akiko arriver dans une robe blanche. Et donc on a été, nous, extrêmement surpris et on trouvait ça très beau. Voilà, par rapport à la place de la caméra aussi, c'est-à-dire que est-ce qu'elle aurait fait ça sans la caméra, c'est pas sûr du tout. Et elle crée avec ça son rituel à elle. Elle en a parlé à la rencontre comme l'idée de se rendre à nouveau pur, de se purifier en s'habillant en blanc.
Et je crois qu'en fait, par rapport au rituel, je crois que participer à ce film, c'était pour elle. Faisait partie de son rituel, oui. Pour accomplir son deuil. Oui. Voilà. Et ça s'inscrit dans l'histoire familiale. Et en fait, c'était un acte qui était, je pense, c'est difficile de parler à la place des gens, mais qui, je pense, était important pour elle.
Et oui, il y avait autre chose aussi que vous évoquiez ce matin, c'était une sorte de code entre vous. En somme, quand il fallait arrêter de tourner, Akiko quittait le champ de la caméra.
Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on discute d'Akiko, c'est un personnage de film, mais avant tout, c'est une histoire vraie, avec une vraie personne qui perd véritablement sa mère. Et la perte des parents, c'est un des moments les plus compliqués de la vie. Donc nous, on arrive avec une caméra, avec du son. Pour elle, ça pouvait par moments être très très difficile, notre présence. Et on a essayé de... Et en même temps, c'est compliqué parce que nous, on doit raconter, on doit être proche d'elle, on doit être très proche d'elle, on doit raconter l'intime, mais en même temps, arriver à ne pas franchir la frontière où ça devient insupportable pour elle. Et ça, c'était assez compliqué à mettre en place. Et finalement, ce qu'on a décidé d'un commun accord, c'est qu'elle puisse avoir le choix de désigner la fin de la séquence en fait en sortant du champ. C'est-à-dire quand la caméra, on s'était dit, quand la caméra te devient insupportable, quand tu n'as plus envie d'être filmé, tu sors du champ. Et donc c'est pour ça c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi de faire des plans fixes. Et la liberté qu'elle avait de faire ça l'a mis beaucoup en confiance et a surtout permis en fait que c'est une règle qui a permis que la limite soit aménageable en fonction de sa séquence, en fonction de son ressentiment profond. Voilà. C'est elle qui pouvait à chaque fois décider, non, là, c'est trop pour moi.
Alors, c'était intéressant ce que vous disiez au début, en rappelant que Akiko est un personnage, mais que ce qui lui arrive est bel et bien réel. Moi, en regardant votre film, j'y voyais les prémices d'une future fiction. En dehors du sujet, hein, mais je vous vois très bien faire une fiction. Est-ce que c'est dans vos projets ?
Alors c'est rigolo parce que ça a été un projet à un moment. On avait prévu de faire un diptyque, de faire à la suite de ce documentaire une fiction. Je crois qu'aujourd'hui c'est plus du tout dans notre esprit parce que, enfin, là je réfléchis en même temps que vous me posez cette question. Hein, j'ai plus pensé depuis qu'on n'a pas abouti ce projet-là de diptyque, mais je pense que le film est un film à part entière, totale, et je ne sais pas aujourd'hui ce qu'on aurait à raconter de plus dans une fiction sur ce sujet.
Même pas sur ce sujet-là, on sent que vous pourriez être très bien aussi à réaliser une fiction. Mais vraiment, là, je parle même pas du même sujet. Hein,
alors, il y a deux choses. Il y a une chose, parce qu'il y a certaines personnes qui ont vu le film et qui ont... C'était marrant parce qu'on pensait jusqu'au générique que c'était une fiction. Et en fait, nous, on a travaillé sur cette question de la fiction, également par rapport à Akiko, parce que ça permettait d'avoir la forme qu'a le film actuellement, de donner une certaine distance. C'est-à-dire qu'Akiko est un personnage de film avant... qui permet pour nous de donner une certaine distance par rapport à son intimité, à son histoire. Et après, par rapport à ce qu'on veut faire de la fiction, nous, on a des projets de films ensemble et pas ensemble. Et en fait, la question du documentaire ou de la fiction viendra plus tard. C'est-à-dire d'abord, c'est une envie de film, une envie d'un sujet, des rencontres avec des gens. Et puis, est-ce que ça peut être une fiction avec des véritables personnages? Est-ce que ça peut être... voilà.
Les gens ont tendance à beaucoup plus s'entremêler aujourd'hui qu'avant, j'ai l'impression aussi.
Bah, c'est vrai qu'en tout cas dans ce film, pour nous, ça a été quelque chose de très important de, dans la forme, d'utiliser une forme qui soit entre les deux. C'est-à-dire que on voulait beaucoup travailler sur cette histoire de mémoire. Idrissa en parlait tout à l'heure sur l'aspect mythique de la mémoire familiale. Donc non seulement, comme il disait, il y a des trous, il y a des choses qu'on ne sait pas, mais c'est vrai aussi que on se la re-raconte, on se fait une légende de ses parents, de sa famille, on s'inscrit comme ça dans une sorte de lignée qui n'est pas forcément que le réel, qui est aussi le réel qu'on s'en fait. Donc nous, on a beaucoup travaillé là-dessus. Là, ça nous semblait d'autant plus évident dans cette histoire-là que toutes les traces qu'on avait de Kyoko étaient des traces qui venaient de la fiction. On avait donc des films de fiction. On avait son journal intime, qui est évidemment son vrai journal intime, mais qui malgré tout est, on va dire, une œuvre plutôt littéraire. C'est pas un journal intime du quotidien où elle raconte ce qu'elle a fait ce matin. C'est un texte qui semble avoir été écrit pour être lu par quelqu'un d'extérieur, et donc où elle fait une sorte d'autofiction. Et donc nous, tous ces éléments-là nous ont fait, ont induit aussi la forme du film, c'est-à-dire ont induit une forme où on a sans arrêt mélangé les deux. On a essayé, par exemple, les images qu'on va dire d'archives, qui sont ces images de films de fiction, racontent une histoire qui peut aller avec ce qu'on entend dans la voix, mais qui ne l'illustre pas directement. C'est sans arrêt des évocations, plutôt des choses qui peuvent nous faire entendre et accompagner cette voix et nous raconter si possible plus aussi que ça, mais c'est jamais exactement l'illustration de ce qu'on entend. D'ailleurs, l'image de Kyoko du début à la fin du film, Kyoko a quasiment le même âge dans ces films là alors que dans le texte elle vieillit. Donc voilà, il y a des décalages comme ça entre le réel et la fiction qu'on a beaucoup travaillé par rapport à cette histoire-là de mémoire, du mélange du réel et de la fiction dans la mémoire, dans la construction de la mémoire elle-même.
Est-ce que vous avez vous-même tenu un carnet? Je sais que ça arrive.
Petite, oui.
Non, mais je veux dire pour le
plus
film.
Plus récemment,
non.
J'ai tenu un carnet des dépenses du film et j'ai beaucoup pleuré.
Non, pendant le film, pendant le tournage du film, c'était un tournage tellement
intense
que moi, j'ai pas du tout eu l'occasion d'écrire à côté. En fait, nous, on tournait et le soir, on faisait traduire en partie les rushs. On montait déjà parce qu'on était tellement un peu en panique de ce rapport d'urgence au tournage où on est parti quasiment en 2 semaines au Japon. On s'est retrouvé embarqué dans une histoire qui allait très vite. Il fallait quand même essayer de maîtriser un tout petit peu les choses et de pouvoir anticiper un peu ce qui allait se passer. Donc ça nous a demandé beaucoup beaucoup de travail et de concentration au tournage qui permettait pas une écriture en parallèle.
C'était pas des notes sur nos états d'âme, ou c'était vraiment des notes techniques sur ce qui se passe, ce qu'on veut faire, ce qui marche, ce qui marche pas, les erreurs. Voilà, c'était un carnet de route technique plutôt que des notes intimes.
Et alors, où en est Sandre dans sa vie? Donc là, ce n'est pas le premier festival où vous le présentez?
Non, c'est sa première française. Il a été il y a une semaine en première au festival d'Amsterdam, à l'IDFA, voilà, où il était présenté là en première mondiale.
D'accord.
Et là, il y a plusieurs festivals européens.
A priori, où il va être diffusé sur, ou alors vous attendez encore?
Sur, là, il va être diffusé au festival, je vais très mal prononcer, c'est Göteborg, c'est un festival en Scandinavie, en Suède. Il devrait aller aussi en Belgique, peut-être en Russie, il va aller en Pologne. Il a une vie qui commence.
Oui, Mélanie Pavy.
Non, mais j'allais dire, mais pour l'instant en festival. Pour l'instant, il a pas de de date de sortie prévue en salle, par exemple. Il n'a pas de distributeur.
D'accord. Et comment ça se passe pour vous ? Alors là, pour l'instant, vous faites le choix d'accompagner vraiment le film pour qu'il avance et qu'il aille dans des festivals. Vous commencez déjà à travailler sur un autre projet ?
On a d'autres projets, mais à l'état vraiment de recherche pour l'instant. Donc là, dans un premier temps, oui, on va d'abord accompagner le film le plus possible, parce qu'on pense que c'est important de... Enfin, d'abord, c'est très agréable d'avoir des retours du public quand on a fait un film. C'est vraiment très agréable de pouvoir en discuter et d'avoir des gens qui l'ont vu et qui nous en disent des choses... voilà, donc c'est un plaisir de le faire. On pense que c'est aussi important de le faire parce que voilà, on est dans une économie très, très petite de films qui n'ont pas beaucoup de publicité, et que peut-être que le fait d'accompagner un film, ça va l'aider en effet.
Et puis il y a aussi, je pense, qu'un film passe à la télé, il fait 300 000, 500 000 ou je sais pas, c'est très bien, mais en fait une salle de 200 personnes, les gens sont là. Et je trouve ça beaucoup plus fort parce que les gens sont là face à un écran et on peut échanger avec eux, la question qui, avec des gens qui ont aimé ou pas aimé. Hein. Mais je trouve ça très intéressant de pouvoir partager le film plutôt que de montrer le film à des gens totalement anonymes, même si c'est bien aussi. Voilà.
C'est la première fois que vous veniez à Belfort ?
Oui.
Oui. Oui, pour les deux.
D'accord. Et vous avez eu le temps de voir d'autres films, justement ?
Un peu.
Un petit peu. Pas de la compétition, enfin, excepté Monsieur Morimoto.
Moi, j'ai vu un peu de films aussi. Ouais.
Mais je vous pose ces questions parce que c'est vrai que ce soit Catherine Bizer, l'ancienne directrice artistique du festival, ou Lily Instinct, mais toutes les deux mettent l'accent aussi sur l'importance de festivals tels qu'entrevus qui permettent à des jeunes réalisateurs aussi de rencontrer du public, d'une part, et d'avoir des retours en direct, mais aussi de rencontrer d'autres cinéastes, d'autres réalisateurs, peut-être des producteurs. Enfin, voilà, aussi.
C'est capital parce que nous, on travaille de manière très artisanale dans notre coin. On passe des mois et des mois à s'embêter sur des tout petits détails,
des années
qui peuvent paraître vraiment sur des tout petites choses. Voilà, donc tout d'un coup revenir au monde, je vais dire, de montrer le film, de discuter avec des gens, de rencontrer aussi d'autres réalisateurs, qu'on se rend compte finalement qu'on n'est pas seul, que d'autres personnes font des films. C'est intéressant de voir des films, de se confronter au travail des autres, qu'on aime pas, de voir différents types d'écriture, de voir des... C'est capital pour moi, surtout pour ce type de cinéma. Enfin, c'est très... Le rôle des festivals est évidemment capital. Ouais.
Et entrevues, même si on n'était jamais venu aux entrevues de Belfort, mais on est conscient que c'est un endroit où des films, les films sont montrés, des films en effet pas évidents, enfin je ne vais pas dire pas évidents, en tout cas qui ne sont pas forcément montrés de manière très large avant leur venue ici. Il faut espérer après que ce soit le cas, mais...
Très bien, mais merci à vous en tout cas, Mélanie Pavy
et
Idrissa Guiraud. Alors on souhaite une très longue vie à Cendres. Je crois que c'était la deuxième projection aujourd'hui.
Ouais.
Donc, voilà. Donc il faudra aller en festival et on le souhaite en salle pour voir ce film.
Ben, on espère bien qu'on va aller en salle en France.
Ouais. Oui, voilà. On espère, oui, on même sinon le voir ce week-end.
Ah oui, le revoir ce week-end, ce qui voudrait dire que...
Oui, ça ce serait encore mieux.
Mais on le dit pas. On le dit pas.
Ça en tout cas, merci à vous. Bonne soirée.
Merci beaucoup.
Alors, cette émission de Fluxfort a été réalisée à la technique par Olivier Legras. Merci Olivier Legras. À demain. Et à demain, Cécile Becker.
À demain, même heure, même endroit, donc 18h à 20h, donc pour le festival Entrevue. Merci Caroline.
Fluxfort.
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 Sur Fluxfort.